Nous prendrons, nous parlerons de cette étude alarmante sur les requins et puis nous prendrons des nouvelles de ce marin suédois relaxé dans une affaire de transport de cocaïne avant de mettre en valeur un événement en faveur des sans-abri. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
On débute ce journal dans l'océan où les requins sont de plus en plus menacés.
C'est une nouvelle analyse parue ce jeudi dans le magazine Science qui chiffre à 50% voire 60% les baisses de population des requins de récifs dans le monde. Ils sont tirés de l'étude Global Fine Print réalisée entre 2015 et 2018 dans près de 400 sites sur 60 pays. L'objectif de ces recherches étant de mieux comprendre les facteurs qui menacent la survie des squales ou au contraire ceux qui permettent la conservation de ces animaux précieux pour les écosystèmes. L'étude publiée ce matin n'est guère réjouissante donc, avec des effectifs en baisse de plus de moitié sur les espèces les plus fréquemment observées sur les récifs. Pour certains, le risque d'extinction se rapproche, liste Eric Clua, vétérinaire et biologiste marin responsable de la partie polynésienne de la récolte de données co-auteur de cette nouvelle analyse.
C'est le Reida, c'est le requin pointe noire, ou alors si tu veux le requin nourrice. Quand on regarde ces requins-là, ben, eux aussi ont baissé, encore une fois, quasiment de moitié par rapport à ce qu'ils devraient être. Alors évidemment, en Polynésie, ça va surprendre les gens parce qu'ils n'ont pas cette impression-là, mais il faut comprendre que dans l'étude, la Polynésie est le pays au monde où justement les densités, les diversités spécifiques sont les plus importantes. Donc en gros, aujourd'hui, la Polynésie devient presque le référentiel de base qui permet de voir que dans les autres pays, c'est catastrophique.
En Polynésie, vous l'avez entendu, les récifs restent en relative bonne santé, donc ce qui peut s'expliquer notamment par le sanctuaire marin installé sur toute la ZEE en 2006. À l'échelle mondiale, il n'y a pas de doute, l'homme est directement responsable de cet effondrement.
La photo générale, elle est claire, c'est la responsabilité directe de l'homme, ça on en est sûr, hein. C'est avant tout la surpêche, bien évidemment. Un degré moindre, mais en l'occurrence, c'est peut-être plus important pour les requins côtiers, c'est la destruction des habitats, en particulier des habitats côtiers. Aujourd'hui, s'il y a un vrai responsable, c'est l'homme. Et malheureusement, un autre responsable pointe le nez qui s'appelle le climat.
Éric Clua, biologiste marin au micro de Charlie René, qui profite également de ses résultats pour dénoncer les décisions prises à La Réunion. Et depuis peu, en Nouvelle-Calédonie, dans les crises requins, après des séries de morsures, des campagnes de régulation ont été ordonnées, à l'occasion desquelles des dizaines de requins sont abattus, sans que l'efficacité de ces décisions soit établie ou même mesurée.
On parle de justice et de ce grand sourire au tribunal.
Celui d'un Suédois de 53 ans, vous en parlez plusieurs fois. Le marin avait été arrêté en septembre 2022 à bord d'un voilier en escale à Papeete, à bord du bateau qu'il skippait, 425 kilos de cocaïne, qui avait valu au quinquagénaire et à son équipier 7 ans de prison et 1,5 milliard de francs d'amende. Sauf que le capitaine clamait son innocence. Il avait fait appel et obtenu gain de cause. Il n'était pas au courant de la présence de la coke et a été relaxé. Seulement, voilà, le tribunal n'avait pas prononcé la restitution des dont son passeport, et notre quinquagénaire suédois, tout juste sorti de Mutanya et sans argent, risquait d'être clochardisé à Papeete. Erreur réparée ce matin au tribunal, d'où il est sorti avec son passeport à la main. Charlie René lui a tendu le micro.
I feel so good.
Je me sens vraiment bien aujourd'hui, mais ce que je pense au fond, c'est qu'il travaille vraiment lentement dans ce tribunal. Être lent comme ça, c'est presque un mauvais traitement pour moi. Mais maintenant, la première chose que je veux faire, c'est trouver un ticket et d'utiliser mon passeport pour rentrer à la maison pour quelques mois. Peut-être qu'un jour je reviendrai ici, mais là je veux vraiment retrouver mes enfants.
Voilà le capitaine suédois du Leana qui a voulu saluer les prisonniers et surveillants qu'il a rencontrés à Nutanya et qui sont, dit-il, presque tous des personnes formidables. Il a aussi croisé Hervé Leroy dans les couloirs du palais de justice. Je ne vous dis pas à bientôt, lui a dit le futur ex-procureur de Papeete.
Le combat judiciaire des parents d'un élève harcelé se poursuit.
Souvenez-vous, les parents d'un élève qui avait été sanctionné par son collègue alors qu'il était lui-même harcelé, avait saisi le tribunal administratif pour tenter de faire annuler l'avertissement de leur fils. Eh bien, le tribunal leur a donné raison mardi en annulant la sanction prononcée. Les faits ont débuté dès la classe de 6e. Le jeune garçon a été insulté. Le harcèlement s'est poursuivi à l'école et en ligne pendant plusieurs années, malgré les tentatives des parents de le faire cesser. Jusqu'à cette punition, donc, non pas des harceleurs comme on aurait pu le penser, mais du harcelé. Pour le sanctionner, l'établissement avait alors évoqué des gestes déplacés que l'enfant aurait eu, se révélant finalement n'être que des rumeurs, selon le maître Brice Dumas, l'avocat de la famille. Et si le tribunal administratif a donné raison aux parents en annulant la sanction, il compte bien poursuivre l'affaire au pénal. Le père du collégien de 14 ans parle de cette affaire avec beaucoup d'émotion. C'est au micro de Lucie Rabréau.
Mon fils est tombé dans les pommes, dans mes bras, tombé dans les pommes en me parlant. Il était fatigué, psychique, il n'en pouvait plus. Quand vous avez vécu ça une fois, allez demander à tous les pères de famille qui sont sur cette planète, ils vous diront... Il faut arrêter, il faut trouver une solution. Alors on va aller au pénal parce qu'on doit le faire et après peut-être qu'on essaiera tous ensemble de trouver une solution. Mais il y en a forcément des solutions.
Aujourd'hui, leur fils est scolarisé à la maison et il va mieux, même si les cauchemars, l'hypervigilance continuent. Pour Maître Dumas, l'avocat de la famille, le harcèlement n'a pas été géré comme il aurait dû l'être par la direction de l'établissement. Il y a manière à enquête et, selon son intime conviction, matière à condamnation. Une plainte contre X va donc être déposée auprès du procureur dès lundi, visant les responsables du harcèlement et ceux qui l'ont laissé être entrepris.
A du changement dans la police.
Oui, comme le relève la dépêche de Tahiti, Mario Banner n'est plus à la tête de la direction territoriale de la police nationale de Papeete. Il est remplacé par Christian Nussbaum, chef de la mission Outre-mer à la Direction Générale de la Police Nationale, qui prend le relais par intérim. Il devrait rester en poste jusqu'à la mi-juillet, date à laquelle un nouveau directeur devrait prendre ses fonctions. Ce successeur n'est pas encore connu.
L'inflation marque le pas.
L'Institut de la Statistique, dont les dernières données ont été présentées en Conseil des ministres mercredi, chiffre l'augmentation de l'indice ouvrier à 5% sur un an. Cette inflation annuelle, si elle reste beaucoup plus élevée qu'avant la crise Covid, est en ralentissement puisqu'elle avait atteint 8,5% à la fin de l'année dernière. La Polynésie bénéficie en outre d'une inflation légèrement inférieure à celle de la métropole, 5,1% sur un an, ou de la Nouvelle-Zélande, mais largement supérieure à ce que connaissent les consommateurs calédoniens. Les 0,2% d'augmentation de l'indice des prix à la consommation au mois de mai sont encore une fois principalement dues à la hausse des prix de l'alimentaire, mais aussi à celle des loyers ou des prix des restaurants, snacks et roulottes.
On reste au Conseil des ministres.
Oui, où la ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Vanina Krolas, a proposé hier de restreindre strictement l'octroi de nouvelles conventions d'accès à l'emploi, les fameuses CAE. L'idée, c'est de les réserver aux entreprises et associations œuvrant dans le tourisme, le secteur primaire, les énergies renouvelables, le numérique et l'audiovisuel. Plus de CAE donc pour les collectivités, c'est ce que semble promettre le gouvernement, qui évoque une priorité plus large donnée à ces secteurs dans toutes les mesures d'aide à l'emploi. Pour rappel, ce fut l'une des mesures les plus attaquées de la campagne des territoriales. Tous les partis, y compris le Tapoura sortant et le Tavini gagnant, promettaient de réorienter, revoir en profondeur et même de supprimer les CAE, conventions de première embauche, accusées d'inefficacité en termes d'insertion ou d'être utilisées par les mairies, notamment à des fins de clientélisme politique.
Un événement solidaire avec les sans-abri.
Une trentaine de personnes issues d'entreprises ou d'administrations du Fénois travaillent sur l'élaboration d'idées mettant en relation les sans-abri avec le monde professionnel. Un projet porté par l'association Tetolea, dans lequel ils se sont embarqués à l'occasion d'un hackathon solidaire. Alors le hackathon, c'est un événement durant lequel les participants se réunissent pour trouver des idées et des solutions rapidement. C'est en ce moment et les acteurs sont réunis dans un entrepôt de l'OPH à Faréouté. Quatre groupes de travail ont été créés, avec pour objectif donc d'aider les sans-domicile fixe à renouer avec le monde du travail. Un défi de taille pour ses participants, comme l'explique la responsable du projet, Karine Leflanchec, au micro de Vaïtiaré Gobret.
Ils ne connaissent pas en fait le sujet social, ils ne connaissent pas les problématiques sociales de l'association, mais j'ai envie de dire par un processus qu'on appelle de design thinking, on les amène à réfléchir, à travailler ensemble. Donc c'est plus des processus d'intelligence collective qui permet aux participants qui sont organisés en équipe de produire une solution clé en main en 24 heures.
Et pour relever ce défi, les participants ont complété plusieurs étapes hier, dont l'élaboration d'un projet concret, chiffré et daté. Ce jeudi, ils présentent leur solution à un jury. La meilleure idée sera retenue pour être développée en fin d'année par l'association.
Dernière étape avant The Voice pour des chanteurs du Fénois.
Ce soir, c'est le grand casting The Voice et The Voice Kids. Ils sont au total 20 Polynésiens, jeunes ou moins jeunes, à avoir été sélectionnés pour se présenter dans la sélection officielle du très populaire Télécrochet. Après un open mic à l'After Tahiti mardi et un autre à l'Urban Café hier, les candidats seront rassemblés face au public, mais surtout face à un membre de la production de l'émission de TF1. Ce soir, à partir de 19h aux 3 Brasseurs, ceux qui seront retenus s'envoleront pour Paris.
Et comme depuis le début de la semaine, on vous parle des Miss.
Et l'élection de Miss Tahiti, c'est le 23 juin. En attendant, les candidates se relaient sur notre antenne depuis lundi. Ce matin, nous avons reçu la candidate numéro 7, Anavaï Kojan, originaire de Moréa. Il y a 2 ans, elle a créé sa marque de vêtements après des études de design et de mode au Canada. Elle réalise tout de A à Z, de la couture à la livraison. Écoutez.
C'est un mélange de tissus unis avec de la nacre. Donc chaque vêtement, tu peux le porter de 2 manières différentes. Et si tu as par exemple envie d'avoir une petite robe pour aller à Carrefour et juste faire tes courses, tu peux l'enfiler. Et si tu veux avoir une tenue un peu plus sophistiquée, il y a des nacres que tu peux rajouter à certains endroits de la robe pour que ça fasse un peu plus classe.
Anavaï Kojan, la candidate numéro 6, a dû délaisser son activité pour se consacrer au concours. Sur son temps libre, elle s'occupe aussi de ses grands-parents. Un emploi du temps chargé pour celle qui a 26 ans et est la plus âgée du concours. Plus jeune, je n'avais pas les épaules pour me présenter, explique-t-elle. La candidate qui l'accompagnait ce matin en plateau est un peu plus jeune. Il s'agit de la numéro 8, Taïpo côté, Marama Cabral, 23 ans, elle aussi est originaire de Moréa et elle aussi est entrepreneuse dans l'âme puisqu'elle gère des activités de location dans l'immobilier et les scooters notamment. C'est aussi une ancienne mannequin devenue créatrice de vêtements. Ses réalisations ont d'ailleurs été portées lors de la dernière Tahiti Fashion Week.
J'en sors grandie parce qu'avec j'ai dû concilier l'élection de Miss Tahiti et les préparatifs pour la Tahiti Fashion Week. C'était assez compliqué. Mais je l'ai fait, je suis très fière aujourd'hui de l'avoir fait. C'est vrai que d'être mannequin, c'est incroyable. T'as l'occasion de porter de super belles tenues faites par des créateurs locaux. Donc c'est aussi une façon pour toi de mettre en avant leur travail. Et là, de passer du côté des créateurs, beaucoup de fierté.
Teipote Marama Cabral, la candidate numéro 8. Le défilé des Miss s'achève demain avec la venue des deux dernières candidates. Il s'agit de Hinanui Salmone et de Vaiterupe Mounier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité locale fera son retour avec le flash de 16h.
Exactement. Merci beaucoup, Valdemar.